Il est 18h, nous sommes le lundi 19 septembre, c'est la rentrée sur Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour et c'est reparti pour une nouvelle année de découverte des talents d'aujourd'hui et on prend le pari des talents de demain. Cette année, on essaiera de créer des émissions qui sont aussi des rencontres. Alors on n'aura pas un mais deux invités. Aujourd'hui, mes invités parlent russe, elles parlent français, elles sont autrices ou écrivaines. Bonjour Paulina Panasenko.
Bonjour.
Bonjour Laura Poggioli.
Bonjour.
Vous publiez l'une et l'autre votre premier roman. Alors vous, Paulina, ça s'appelle Tenir sa langue et c'est aux éditions d'Olivier. Laura, ses trois sœurs et c'est aux éditions L'Iconoclaste. Premier roman, c'est pour vous un achèvement ou un début que je vous souhaite prometteur? Paulina, allez.
C'est mon premier roman, mais c'est pas mon premier livre. Donc c'est une forme de continuation d'écriture et j'espère effectivement continuer à écrire après celui-ci.
Laura ?
Moi, c'est mon premier roman aussi publié, mais ce n'est pas le premier texte que j'écris. J'écris depuis longtemps et donc c'est un début aussi et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres livres après.
Vous êtes dans un état d'esprit particulier, c'est... Comment on est au moment où on publie son premier roman, où en plus vous êtes dans la rentrée littéraire, ce monument français qui compte pour beaucoup de monde?
Moi, je découvre la rentrée littéraire et c'est quelque chose que je connaissais très peu, voire pas du tout jusqu'ici. Et je crois que je n'ai jamais autant lu de gens vivants de ma vie.
Vous lisez plutôt des classiques?
Des morts, oui.
Et vous?
Oui,
alors vous
oui.
Êtes Laura, hein, parce qu'on va essayer de... C'est moi qui fais mon travail. J'ai perdu mes réflexes pendant les vacances. Laura, pardon.
Oui, donc je découvre moi aussi la rentrée littéraire et je pense que même si je regardais ça d'un peu loin depuis quelques années, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas été plongé dedans. Et alors, moi aussi, j'ai davantage lu d'auteurs classiques, d'auteurs morts que d'auteurs vivants, mais ça fait quand même quelques années que je lis des auteurs contemporains et je suis très heureuse là d'ailleurs d'avoir la chance de rencontrer des auteurs et autrices que je lis.
Vous les lisez pour les rencontres ou vous les lisez pour voir la concurrence? Non, mais sérieusement, pour voir qui sont vos concurrents cette année.
Moi j'ai toujours lu des auteurs contemporains en plus de ces fameux morts, mais pas forcément au moment de la sortie. Donc là, ce qui est particulier pour moi et nouveau, c'est que je les lis au moment de la sortie du livre.
Et vous Laura?
Oui, je suis assez d'accord. Alors moi, il y a tout de même quelques... des auteurs, des autrices qui sont pour moi très importantes, dont j'achète toujours le livre à sa sortie, mais sinon j'attends plutôt la sortie en poste. Donc là oui, c'est un moment, c'est particulier.
Et toute l'effervescence, le grand Barnum, les couvertures avec Virginie Despentes partout par exemple cette année, vous attendiez votre couverture, vous attendez votre moment, ça vous en fichez un peu, l'essentiel déjà le livre est là et vous espérez qu'il va trouver son public? Question sans intérêt, on enchaîne. Allez, j'ai dit, vous avez toutes les deux un point en commun à la Russie. On va aller toute ambiguïté. L'une et l'autre, vous avez écrit ces romans avant même le début de la guerre en Ukraine. Donc on ne parlera pas de la guerre aujourd'hui. Mais vous avez toutes les deux un rapport amoureux à ce pays, ce qu'on voit dans ce pays, dans vos deux livres. Alors, en dehors du contexte actuel, qu'est-ce que vous aimez le plus en Russie et chez les Russes? J'avais envie de vous demander. Vous, Laura, par exemple. Vous, Laura, faut pas que je me trompe de côté.
Oui, bon, alors moi, j'ai un rapport, vraiment intime. Aux Russes et à la Russie, j'ai commencé à apprendre le russe complètement par hasard, enfin presque par hasard, quand j'étais au lycée et j'ai eu la chance d'avoir une professeure formidable qui vous fait aimer la langue. Et j'ai d'abord rencontré en fait les Russes à travers la littérature, justement on parlait de littérature et notamment des poétesses, je pense à Tsvetaeva, Armatova, Mayakovsky. Et ça a été ma première porte d'entrée. Et puis après il y a eu la rencontre avec le pays, un voyage là-bas avec dans une école.
Vous avez de la Russie, le pays, russe, on va dire.
Et ce que j'ai trouvé après quand j'ai vécu là-bas aussi dans un Abchevit, c'est le fait. Ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir exprimer plus d'émotions, déjà en russe qu'en français. Il y a plus de nuances dans la langue. Et j'aime le fait que le rapport, dans un premier temps, soit peut-être plus difficile que dans en tout cas des pays occidentaux par exemple, mais qu'ensuite, une fois que la relation elle est construite, moi j'ai trouvé là-bas les amitiés les plus fortes de ma vie. Donc je trouve qu'il y a plus d'intensité en fait. C'est peut-être ça que j'aime en résumer le plus.
Vous, Paulina, vous êtes née en Russie, vous avez grandi en Russie.
Oui.
Et donc, vous, votre rapport à la Russie, au-delà de... Qu'est-ce qui vous manque maintenant que vous vivez en France, par exemple?
Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à parler de la Russie ou des Russes en général, parce que ça va quand même de la mer d'Okhotsk à la mer Baltique. Et les Russes, oui, je ne saurais pas qu'en dire de
qu'est-ce
façon...
Qu'est-ce qui vous manque de votre enfance, outre votre enfance? Si je vous parle de Russie, tout de suite, vous pensez à quoi? Que c'est des odeurs, c'est des...
Oh,
c'est des paysages?
Oui, bah, ça serait le pendant... J'ai des images très concrètes de l'aéroport, de mes amis, d'une partie de ma famille.
C'est drôle, vous dites un aéroport, il n'y a rien de plus international et tous les aéroports se ressemblent.
Oui, mais sauf que c'est la porte d'accès au pays. Jusque-là, c'était l'aéroport. Si on veut y aller, il faut passer par là.
Très bien. Laura Poggioli, je reviens avec vous. Alors vous, qu'est-ce qui vous conduit au russe? Vous dites c'est un peu le hasard.
Oui, vraiment, c'est le choix d'une troisième langue. Et
pour aller dans un meilleur lycée, par exemple, parce que ça se faisait à une époque. On faisait option russe parce que c'était les bons lycées.
Alors, il fallait faire une troisième langue, effectivement, pour aller dans le lycée où je voulais aller. Et on m'a conseillé je voulais apprendre l'italien, parce que je suis d'origine italienne, par mes grands-parents. Et on m'a dit non, le russe, c'est une langue plus difficile, elle te sera plus utile. Donc, c'est par hasard. Mais après, c'est un coup de foudre, je l'ai dit.
Avec la langue, parce qu'elle est une langue qui est pas simple, qui est pas aimable aussi,
que j'ai trouvé magnifique, parce que donc voilà, il faut plus de mots pour parler un russe courant qu'un français. Il y a plus de nuances, je trouve les sons magnifiques. J'ai aussi des souvenirs de l'apprentissage de l'écriture. Enfin, j'étais adolescente et tout ça, c'était important.
Qui sont les trois sœurs du titre de votre livre?
Alors, ces trois sœurs, ce sont Christina, Angelina et Maria Ratchatorian. Ce sont trois sœurs qui ont tué leur père un soir de juillet 2018 dans leur appartement moscovite. Et c'est une histoire qui a eu un écho médiatique important en Russie et que moi, j'ai découverte la dernière fois que je suis allée en Russie fin 2019. On m'en a parlé à ce moment-là.
C'est une histoire dont tout le monde parlait ?
Oui, alors elle s'inscrivait dans un contexte particulier. En fait, il y avait eu une loi de dépénalisation des violences domestiques en Russie qui était entrée en vigueur en 2017 qui avait une polarisation de la société. Enfin, il y a une polarisation de la société entre ceux qui réclament à ce qu'il y ait une loi plus protectrice des victimes de violences domestiques qui soit votée et ceux, au contraire, qui se satisfont de ce qu'il y a. Et donc, en fait, cette affaire des sœurs Ratchatorian, elle a eu un écho particulier parce qu'elle a opposé la société entre ceux qui demandent à ce que les filles soient condamnées au maximum requis pour meurtre en Fédération de Russie et ceux qui, au contraire, demandent à ce que la légitime défense soit prise en compte.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un livre? Parce que c'est un fait divers. Oui. C'est une histoire assez terrible.
Oui, en fait, quand on m'a parlé de cette histoire, moi, ce voyage en Russie, c'était un petit peu plus d'un an après MeToo, et j'avais envie de parler avec mes amis là-bas, enfin, de ça. Je ne savais pas du tout s'il y avait eu un écho en Russie, je n'avais pas cherché. Puis elles m'ont dit, il n'y a pas eu du tout d'écho comme en Occident, mais il y a des influenceuses, des activistes féministes qui se battent pour les droits des femmes, et je suis allée regarder ce qu'elles faisaient, et c'est par elles, en fait, que j'ai découvert cette histoire. Et je suis rentrée avec cette histoire et j'arrivais pas à m'en détacher. Je creusais, je cherchais, puis ça m'a permis de mettre le doigt sur l'ampleur des violences domestiques en Russie. J'avais pas réalisé.
Et j'imagine que vous les avez vues en photo, nous on les voit pas quand on lit votre livre. J'imagine ces trois jeunes. Moi j'ai pas été chercher de photos. Ces trois sûrement jeunes filles à qui, comme on dirait, on donnerait le bon Dieu sans confession, peut-être. Ou au contraire, je ne sais pas.
Oui, tout à fait. Et en fait, au début, j'avais un projet de documentaire avec un réalisateur sur cette histoire. Et donc, je suis rentrée en contact avec leur avocat qui m'a envoyé des photos de la famille. Donc oui, il y avait le visage des filles. Et puis, en fait, ça faisait longtemps que je me disais que j'écrirais mon roman russe, que j'avais envie d'écrire sur la Russie. Mais je n'avais pas forcément envie d'écrire sur quelque chose qui donnerait une image assez négative, en fait, de la Russie. Mais je n'ai pas réussi à m'en détacher parce que ça me renvoyait aussi à des choses...
Ce fait divers vous renvoie en fait à votre expérience intime de jeune étudiante. On peut en parler, j'imagine, puisque vous l'écrivez. Vous rencontrez là-bas un garçon qui est très charmant au début et qui devient violent. Et vous découvrez ce proverbe qui dit « s'il te bat, c'est qu'il t'aime ». C'est cette chose horrible.
Oui, alors il ne s'agit pas de comparer évidemment non, ce que j'ai sûr. Vécu avec ce garçon, ce que j'ai vécu avec ses filles, ce que ses filles ont vécu, mais oui, je crois que ça me renvoyait à une... Parce qu'en Russie, j'ai vécu finalement une expérience de la violence, et ça me renvoyait à ça, et je pense que c'est pour ça, c'est comme ça que je l'explique, que je n'ai pas réussi à me détacher de cette histoire et que j'ai eu besoin de la raconter, de la mettre dans un livre.
C'était facile de tisser les deux, parce que c'est très bien fait dans votre livre, la manière dont... Vous racontez à la fois le fait divers, ce crime, que vous racontez vraiment comme presque une émission de faits divers qui passe à la télévision, et en même temps comment vous racontez votre expérience intime. Vous avez beaucoup travaillé ce tissage des deux ?
Alors, en fait, j'ai porté vraiment l'histoire en moi pendant plusieurs mois. Quand je faisais des recherches, etc., je savais que j'en ferais un livre, mais je l'ai porté en moi avant de commencer à l'écrire. Et ça s'est imposé dans ma tête, en fait, cette forme hybride. Et l'histoire des filles, en fait, peu à peu, il y avait des sortes de scènes qui se mettaient en place dans ma tête. Et oui, donc la construction, en fait, ça a été une évidence. Donc non, je ne dirais pas que ça a été compliqué. Et j'alterne, en fait, les chapitres de fiction et de récit. Et dans les chapitres de fiction, j'ai construit comme un compte à rebours qui nous amène à la nuit du parricide, et là j'ai inventé leur quotidien, enfin je me suis nourrie de beaucoup de choses,
des missions, il y a la mer, il y a le frère.
Voilà, je me suis vraiment nourrie de beaucoup de choses, mais j'avais besoin de passer par la fiction. Puis dans les chapitres de récit, oui, c'est vrai que j'ai essayé de tirer plein de fils. En fait, il y avait l'enquête là autour de ce fait divers, la problématique des violences domestiques en Russie, et puis moi, mon histoire de jeune française, donc tombée très amoureuse d'un pays, de ses habitants, d'un de ses habitants en particulier, et le fait que j'avais été confrontée à la violence, mais je voulais aussi dire toute la beauté de ce pays.
Vous montrez aussi que cette violence, elle n'est pas seulement russe, parce qu'il y a encore un ultime écho qu'on découvre à la fin, qu'on révélera peut-être pas ici, mais qui justement vous fait sortir d'un espèce de déterminisme parfois un peu agaçant, qui est de dire les Russes sont tous violents. Ce que je ne pense pas, mais qu'on peut entendre
je pense
parfois,
pas que c'est ce
espèce
que je
d'âme
disais.
Russe. Non, justement, ouais. Vous vous échappez à ça.
Oui, voilà, je voulais pas du tout, enfin, c'est pas du tout un brûlot contre la Russie, j'ai essayé d'être vraiment dans la nuance, que j'aime ce pays.
Vous êtes même dans la nuance, vous êtes dans l'ambiguïté, oui. C'est-à-dire qu'on est toujours, enfin, c'est mon avis, c'est qu'on n'arrive jamais à conclure de ce que vous dites, parce que vous remettez toujours un autre point de vue qui décale. Enfin,
oui, j'essayais juste d'éclairer, en fait, mais sans juger, et oui, je vais pas révéler ce dont vous parlez, mais effectivement, il y a un éclairage, moi, j'essayais de comprendre, en fait, ce qui faisait qu'à un moment donné, j'avais pu accepter donc une forme de violence en Russie, mais pour ça, j'avais besoin d'éclairer aussi, moi, mon rapport aux hommes, et donc mon histoire familiale.
Et là, dans cette histoire, elle est quand même très spécifique, parce que ça, moi, j'ai pas compris, alors, peut-être j'ai pas bien lu, j'ai peut-être raté une page, mais ce père violent, horrible, monstrueux, c'est un mafieux. Pourquoi personne ? Parce qu'il est dénoncé plusieurs fois, il ne se passe rien. C'est pas monsieur tout le monde quand même.
Si. Alors oui, effectivement, il a des relations, donc il fait partie de la diaspora arménienne, et il y a des relations visiblement dans la police.
On ne comprend pas très bien son rôle en fait.
Oui, mais en fait, je donne aussi d'autres exemples de cas de violence comme ça, où la police n'intervient pas en fait. Enfin, il n'y a pas de protection des victimes de violence. Il y en avait déjà très peu avant, depuis 2017, il y en a encore moins. Et donc ce cas-là, là, il est emblématique, mais il y a d'autres situations de ce type dans lesquelles les autorités sont prévenues, mais rien ne se passe.
Ouais, on va écouter un court extrait de quelqu'un que vous citez qui ne parle pas des violences faites aux femmes. C'est Ludmila Ulitskaya.
Объемы печатной продукции, книжной, литературной, они во всем мире уменьшаются сейчас. Снижаются продажи, снижается интерес. Но, в общем, к этой ситуации нельзя относиться драматически. Потому что культура – живая вещь. Она не подвергает, так сказать, культура не терпит руководства. Это живой организм, который...
Comme on n'est pas bilingue, on va couper, sauf... Si vous êtes bilingue, mais moi, je ne suis pas bilingue. Et puis, nos auditeurs, je ne suis pas sûr qu'ils le soient. Donc Lumina Ulitskaya, vous la citez dans le livre, et elle rappelle ce que dans une interview, je crois que vous citez, elle rappelle ce paradoxe, c'est qu'en fait, la femme russe aussi a été une des premières émancipées de... Alors, je ne sais pas si les Russes sont européens, ça, on pourrait faire des thèses. Mais en tout cas, du continent, parce qu'elles ont le droit de vote tôt, elles vont travailler à l'usine, elles construisent des routes. Et en même temps, elles ont une vie domestique et peut-être plus dure aussi, parce qu'elles ont...
Bah, oui, ce qu'elle explique dans l'interview dont vous parlez, c'est que oui, elles ont eu le droit de vote plus tôt, elles avaient une forme d'égalité dans le travail, en Union soviétique, mais elles faisaient des travaux très difficiles que les Européennes ne faisaient pas, et que finalement, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient envie de pouvoir aussi être à la maison et qui recherchaient un mari, le fait de ne pas avoir forcément l'obligation de travailler. Puis elle parle aussi du déséquilibre démographique qui est important en Russie, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Beaucoup d'hommes sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, et puis après en Afghanistan, en Tchétchénie, et puis aujourd'hui ça continue en Ukraine. Et donc elle parle de tout ça pour expliquer les relations hommes-femmes en Russie, et je trouvais ça intéressant.
Alors vous avez deux points de vue pas différents mais complémentaires. Vous, Paulina, alors quand on lit votre livre, la femme russe, c'est la babouchka qu'on rêve tous d'avoir, mais bien sûr, parce que vous parlez de votre maman et de votre grand-mère, comment vous voyez ces femmes dont parle Laura?
Alors ce sont des personnages, hein. Oui. Il y a le personnage de la mère et de la grand-mère.
Ah oui, pardon. C'est un roman, donc.
Oui, c'est un roman. Bah, c'est comme ça que je l'ai écrit, en tout cas.
D'accord.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question.
Mais comment vous percevez ces femmes? Est-ce qu'elles vous semblent ces femmes qui travaillent depuis toujours, qui ont plus de droits, qui ont peut-être plus fortes, qui donnent l'impression de plus grande force, peut-être, dans le roman de Laura, que des femmes occidentales? C'est peut-être nous, notre regard occidental, qui est complètement biaisé, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le vôtre. Vous avez trouvé les femmes françaises quand vous êtes arrivée en France?
Vous savez, quand je suis arrivée, j'avais 4 ans et j'en pensais, mon point de vue se limitait à la maîtresse. En tout cas, dans le livre, les personnages, il y a la grand-mère, mais qui est à la retraite, donc la question du travail ne se pose plus. Ensuite, il y a la fille aînée qui est à l'école, la fille cadette qui est à l'école aussi, et la mère qui visiblement s'occupe des enfants. Donc là, la question du travail ne se pose pas, mais en tout cas en Union soviétique, jusqu'à la fin de l'Union soviétique, toutes les femmes travaillaient, et en revanche, il y avait ce qui s'appelle un dikriat, c'est-à-dire pendant 3 ans après la naissance de l'enfant, les femmes avaient le choix de s'occuper de leur enfant nouveau-né, et ayant la possibilité ensuite de retrouver leur emploi qui leur a été conservé pendant 3 ans. Mais il était extrêmement rare que des femmes restent au foyer pour s'occuper de la maison. L'immense majorité d'entre elles, d'ailleurs je n'en connais aucune qui ne travaillait pas en Union soviétique.
Et vous connaissiez ce proverbe que cite Laura?
Biosnachtlubt, oui, mais il y a une traduction quand même quasi littérale en français qui aime bien, châtie bien.
Ça veut aussi dire ça?
C'est assez proche.
Ouais, donc ça dépend de la manière dont on... Avec vous, on reparlera de la langue, mais on voit bien là, en plus, là, il y a la traduction, il y a l'enjeu de la traduction. C'est pas forcément s'il t'aime, s'il te bat, c'est qu'il t'aime, c'est ça?
C'est ça.
Il y a les deux, très bien. Vous, dans votre livre, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais 3 sœurs, elles ont un frère, Laura Poggioli. Vous l'abandonnez en cours de route, il est devenu quoi, on le sait?
Vous n'êtes pas spécialiste de l'affaire de la famille. Si, mais ce frère, j'en parle quand il m'a paru important d'en parler Serioja. Après, je ne sais pas ce qu'il fait au quotidien aujourd'hui.
Il ne vous intéressait pas comme personnage?
Ce n'est pas sur lui que j'étais centrée. Enfin, quand j'en ai parlé, c'était...
Oui, mais vous en parlez parce qu'il est là.
Oui, après non, je ne sais pas ce qu'il fait.
Alors, le titre de votre livre évidemment, les héroïnes de Tchekhov. Est-ce que, en parlant des 3 sœurs, vous nous dites que finalement, on les présente comme des jeunes femmes qui s'ennuient souvent dans un univers assez délicat? Est-ce que vous avez eu envie de révéler peut-être la vérité qu'il y avait derrière ces pièces très douces, amères?
Alors, je compare pas. Enfin,
c'est plus un clin d'œil.
Oui, c'était plus un clin d'œil. Et puis, il y a un moment où j'explique dans un chapitre, le lien que j'ai pu faire, mais
Il n'y a pas une volonté de dire...
C'était s'inscrire aussi avec eux, parce que le fait que ce soit 3 sœurs, c'est vrai qu'au début de l'affaire, ça a été beaucoup repris dans la presse, et ce titre, il a un écho particulier, forcément, par rapport à la pièce de Tchekhov. C'était pour m'inscrire aussi dans quelque chose, mais ce n'est pas la même histoire.
Les gens sont où aujourd'hui? Elles sont libérées de prison, je crois.
Hein. Oui, oui.
Leur procès, on l'attend toujours ?
Oui, elles sont restées en prison seulement au début et après, elles portaient un bracelet électronique. Enfin, il y avait des mesures particulières. Là, elles ont le droit de revoir leur mère depuis début 2021, mais elles n'ont toujours pas le droit de se voir entre elles et le jugement n'a pas été rendu. Non.
Et vous pensez qu'il y aura un jugement ? Parce qu'on a l'impression que, on a l'impression qu'il y a une espèce de non-solution, qu'il y a une manière de ne pas trancher ce débat dont vous parliez tout à l'heure, de savoir est-ce que...
Non, c'est parce qu'en fait, il y a une affaire qui a été ouverte contre le père aussi, en parallèle, à titre posthume. Et en fait, là, les avocats des filles espèrent que le jugement qui sera rendu contre le père le reconnaîtra coupable de sévices, de violences, etc. Et que cela, ça pourrait entraîner l'abandon des poursuites contre les filles.
Paulina, vous avez entendu parler de cette affaire ? Vous avez quel regard dessus ?
Oui, bien sûr. Il y a un documentaire d'une femme qui s'appelle Elena Pogrebnichkaya, que j'ai regardé, qui a été composé autour de l'affaire. Et puis oui, c'est quelque chose que j'avais lu dans les journaux, oui.
Et vous, elle vous inspire quoi, cette affaire ? Pour vous, c'est un fait divers, c'est plus que...
C'est plus qu'un fait divers dans le sens où ce que souligne Nora, ça met en exergue le problème de cette loi, effectivement, de 2017 qui dépénalise, qui laisse totalement sans protection les victimes de violences domestiques. Mais la particularité de cette affaire aussi, je trouve, se situe au niveau de l'inceste, puisque c'est un père incestueux. Et ça pose aussi cette question-là, qui est problématique en Russie, mais en France également, du traitement juridique de ce crime. Fun and games until she came. Nothing would ever be the same. And summer pain was not a thing back then. Not a thing.
C'était Fun and Games et le groupe s'appelle Please. On est toujours à la relève avec deux invités. Laura Poggioli, qui est l'autrice de trois... D'ailleurs, vous dites autrice, romancière, écrivaine.
Autrice.
Vous dites autrice. Vous ?
Autrice, auteur.
De Paulina Panasenko. Alors vous, si vous êtes l'autrice donc de Tenir sa langue aux éditions de l'Olivier. Donc depuis tout à l'heure, je parle de romancière, mais vos livres sont-ils vraiment des romans ? Vous y parlez de vous, de votre expérience, c'est une manière peut-être de se présenter au monde avec son livre. Est-ce que l'une ou l'autre, vous n'aviez pas envie d'écrire le Anna Karenine d'aujourd'hui ? Là, le gros cliché, hein. Je vois votre air affiché, ça me fait presque plaisir.
Le Anna Karenine d'aujourd'hui ?
Mais oui, peut-être.
Mais alors, je ne suis pas sûre de voir le lien entre Anna Karenine...
Le roman d'aujourd'hui, la pure fiction romanesque, vous n'aviez pas envie ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai écrit un roman. J'ai choisi de l'écrire à la première personne du singulier et de nommer la narratrice, de donner mon prénom à la narratrice. Mais il s'agit bien d'un roman avec des personnages.
Et ça, j'ai du mal à comprendre. C'est pas du tout votre histoire, en fait.
C'est d'inspiration autobiographique, mais c'est pas tellement ce qui m'intéresse.
D'accord. Et vous ?
Je vous disais tout à l'heure que j'avais eu besoin d'utiliser la fiction. Donc je suis partie de ce fait divers, mais j'ai eu besoin de la fiction pour aller au-delà. Sinon, j'aurais eu l'impression de faire un travail de journaliste et je cherchais autre chose. Et puis, après, y a moi aussi des passages autobiographiques. Mais,
forcément, oui. Si on parle de littérature russe, alors qui sont les auteurs et les autrices que vous aimez ?
J'aime beaucoup Ludmila Ulitskaya, qu'on a écouté tout à l'heure, Svetlana Alexievitch. Après, dans les poètes, je pense que ça serait aussi Mandelstam que je citerai en premier.
Vous, Laura ?
Ouais, j'aime aussi Ulitskaya et j'aime Alexievitch. Je la cite aussi dans mon livre. Et moi, les poètes, poétesses, c'est vraiment Mayakovsky, Armatova, Tsvetaeva, qui sont très importants pour moi.
Très bien. Je vais vous parler tout doucement d'un seul coup. Là. Non, c'est pas grave. J'espère juste qu'on nous entend encore. Vous murmurez à l'oreille des auditeurs. Paulina, votre roman vient d'une colère, celui d'une jeune femme arrivée en France, encore enfant, et qui veut récupérer son prénom russe, donc Paulina, qu'un juge lui a refusé, estimant que finalement Pauline sait très bien pour vivre en France. À partir de quel moment vous êtes dit que ça c'était le point de départ d'un roman ?
C'était pas le point de départ du roman. Le point de départ du roman, c'était une envie de travailler l'entre-langue, c'est-à-dire l'endroit de friction entre le russe et le français. Et on parle souvent de langue maternelle, de langue étrangère. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'explorer cette zone grise entre les deux, c'est-à-dire à quel moment une langue étrangère cesse d'être étrangère et comment s'opère le passage de l'une à l'autre physiquement. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un corps traversé par plusieurs langues, qui parle plusieurs langues, et comment on fait cohabiter tout ça.
Et justement, par rapport à ça, j'ai lu que vous étiez aussi comédienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez raconter sur scène ?
Oui, alors ça, c'est en cours d'élaboration. Je vais faire une lecture performée de ce texte le 22 novembre à la Maison de la Poésie.
Nous y serons.
Et puis ensuite, au Théâtre Garonne à Toulouse en janvier et sûrement d'autres dates ensuite.
Et vous allez l'adapter ou vous reprenez des extraits de tel quel ?
Je pense que je vais faire un montage et faire une forme scénique autour de ça. Mais comme je n'ai pas vraiment encore commencé à travailler là-dessus, je crains de m'avancer.
Je ne sais pas très bien comment exposer ma question, mais vous avez, enfin, votre personnage grandit en Russie puis arrive en France. Là, il y a ce que vous dites, il y a un personnage qui est traversé de deux langues, qui vit dans deux pays, donc qui est aussi dans deux environnements différents. Est-ce que c'est la même chose quand on part de France et qu'on va dans un autre pays pour apprendre une langue ? Est-ce que pour vous, c'est une expérience comparable, vous pensez ?
Non, absolument pas. Non, pas du tout.
Vous êtes très sûr de votre langue maternelle ?
Ah bah oui, ça n'a rien à voir ce que raconte Paulina dans son livre. Enfin, son personnage, donc la narratrice, arrive enfant dans un pays étranger à 5 ans. Enfin, ça, et elle porte vraiment en elle deux langues. Elle parle, il y a une langue avec laquelle elle est née, puis l'autre avec laquelle elle a grandi. Moi, ça n'a rien à voir. Le russe, c'est une langue que j'ai apprise quand j'étais adolescente déjà, donc qui est très importante pour moi. Mais c'est
quand
pas...
vous viviez en Russie, par exemple, est-ce qu'il y a un moment où... On dit toujours le moment où on rêve dans la langue du pays.
Ah oui, si, si, ça m'est arrivé. Et quand je retourne en Russie, il me faut une semaine pour que ça arrive de nouveau.
Vous pensez que votre personnage, il rêve dans quelle langue aujourd'hui ?
Je ne sais pas, mais je crois que je vais défaire un mythe sur le rêve et la langue.
Allez-y, allez-y.
En fait, quelle que soit notre langue maternelle, on peut rêver en plusieurs langues. Et par exemple, enfin, ce que je retrouvais dans le livre de Laura, c'est un éblouissement vis-à-vis de cette langue. J'ai retrouvé ça par rapport à une expérience que j'ai eue aux États-Unis, c'est-à-dire une sorte d'enamourement total des sonorités et du rythme, mais qui est différent, bien sûr, selon l'âge et les circonstances. Mais sur le rêve, par exemple, je me souviens que je rêvais en anglais, et puis même de penser en anglais tout en me disant « là, je pense en ayant l'impression d'être totalement... totalement anglophone, et en même temps je fais des fautes dans ma tête et je ne sais même pas que je les fais. » Ça, c'est très grisant parce qu'on a l'impression d'être vraiment de parler un excellent anglais.
Pour raconter ma vie là, moi dans ma tête je suis bilingue.
Bah voilà.
Mais dès que j'essaie de parler, je le suis plus.
Mais c'est un plaisir, on a le droit.
C'est vrai, vous avez raison. Votre livre, alors, parce qu'on peut donner l'impression qu'il est très sérieux ou qu'il est très dur, il est aussi très joyeux. Vous racontez des choses très drôles. Vous arrivez très bien à retrouver, je trouve, le regard de l'enfant, en tout cas dans toute la partie sur l'enfance. Il y a notamment toute cette arrivée à l'école avec cette chose qui est terrible, c'est que les petits caïds de la cour de maternelle prennent Paulina ils la prennent en souffre-douleur parce qu'ils ont compris qu'elle ne pourrait pas les dénoncer.
Bah oui, c'est le lien entre parole et pouvoir, et que la parole soit agissante entre parole et violence et domination, oui. Mais ce n'est qu'un temps, ça ne dure qu'un temps.
Vous prévenez tous les petits caïds, ça ne dure qu'un temps le pouvoir.
Oui, on aimerait bien, mais je ne suis pas sûre de pouvoir m'engager là-dessus. Mais oui, elle arrive dans une cour maternelle qui a des strates hiérarchiques très nettes. C'est une sorte de triangle avec une base dominée par des individus masculins qui jouent au ballon, au loup, et exhibent leur partie génitale. La partie centrale, c'est plutôt les individus femelles qui sont dominés par la base, mais qui dominent à leur tour la pointe de la pyramide où il y a deux individus, le bègue et la russe.
Mais ça, je me suis demandé, vous avez lu Le Petit Nicolas, vous ? Parce que ça fait un peu penser à ça, votre récit, à cet été, ce génie qui est sans peine et mort. Mais est-ce que c'était quelque chose que vous aviez lu ?
Le Petit Nicolas, je vois très bien ce que... Je vois très bien...
Non, mais dans la description de la cour... Que...
Mais je crois que c'est internationalement, cette cour-là, parce qu'on avait parlé de Riyad Satouf aussi. Ouais,
je connais moins bien.
Mais je pense que cette hiérarchie-là, en fait, est assez commune.
Et ça fait... Là, je vais vous demander, parce que si j'ai bien compris, vous avez vécu la même chose que votre héroïne. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un pays où sa langue... Où on ne peut plus dire les choses que l'on voit avec la langue qu'on a apprise. Elle est plus opérante, en fait.
Vous voulez dire, moi, dans...
Oui, vous, comme personne. Vous étiez peut-être petite, mais vous rappelez ça. Ça doit être très... Enfin, ça doit être... Enfin, moi, ça me paraît horrible d'être... Il y a ce roman Épépé qui raconte un peu ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'un auteur hongrois, qui raconte de quelqu'un qui d'un seul coup se retrouve dans un pays où tout le monde parle une langue qu'il ne comprend pas.
Ah, comment il s'appelle ?
Je ne sais plus son nom, je vous regarderai après, je vous dirai. Mais c'est ce côté de ce qui a guidé votre rapport au monde pendant des années, d'un seul coup ne marche plus.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un rapport, ce qui a servi de lien à l'autre, c'est-à-dire la parole, les mots sont inopérants du jour au lendemain. Et donc, d'abord, il faut comprendre pourquoi ils sont inopérants et par voie d'exploration, essayer de rétablir ce lien en tâtonnant.
Alors, dans le livre de Laura, j'ai essayé de faire quelques ponts entre vous, mesdames, dans le livre de Laura Poggioli, donc Trois sœurs à l'iconoclaste, il y a un moment où vous écrivez, donc vous êtes en Russie, vous dites « Ces insultes résonnaient, je les entendais, je les comprenais, mais elles n'avaient pas le même impact sur moi que leurs équivalents français. Dans ma langue maternelle, ces insultes auraient fait des échos à des scènes de violence. »
Oui.
C'est très, je trouve ça très troublant. Ça atténue le fait que ce ne soit pas dans votre langue.
Peut-être, enfin, ça c'était une réflexion de me dire oui, je comprenais ces mots, mais j'ai le sentiment que c'était des insultes et j'avais je les comprenais, mais elles ne me renvoyaient pas en fait aux mêmes images. Et je pense que si j'avais entendu ces mots en français d'un garçon, donc ça m'aurait renvoyé, bah oui, à des films que j'aurais pu voir, des scènes, des choses qu'on aurait pu me raconter aussi de familles dans lesquelles il y avait de la violence. Enfin, et là, ça ne faisait pas appel à la même mémoire, je pense.
C'est une expérience que vous avez vécue aussi, ou que votre personnage a vécue plutôt?
Pas
forcément l'insulte, mais oui. Des choses dont, si on les traduit, elles sont équivalentes, mais comme elles ne sont pas dans la même langue, elles n'ont pas la même valeur.
Oui, c'est que moi, pour écrire ce livre, il y a des mots qui me manquaient, parce qu'en fait, mon français n'a pas de petite enfance. Il a une enfance, mais pas de petite enfance. Donc il y a toute une partie de 0 à 5 ans de vocabulaire que je n'ai pas vraiment côtoyé. Ou alors je l'ai côtoyé intellectuellement, mais pas de la même façon que quelqu'un qui serait né dans la langue française et pour qui c'est associé à des expériences sensorielles ou émotionnelles. Et donc, il y avait tout un tas de mots comme ça qui étaient déconnectés les uns des autres, et aussi des mots russes déconnectés du mot français. Par exemple, je ne sais pas comment j'ai fait, mais le mot hublot, je l'ai connecté il y a 4 ou 5 ans au mot illuminator en russe. Mais avant, je ne sais pas, je les connaissais les deux, mais séparément. Et à un moment, je comprends qu'en fait, l'un est l'équivalent de l'autre, et ça fait comme une sorte d'épiphanie, comme ça, de réunion... entre les deux. C'est un grand plaisir quand ils se retrouvent.
Vous seriez capable de traduire votre roman russe? Votre russe est suffisamment exercé pour pouvoir le faire?
C'est ma langue maternelle. Enfin,
je ne sais pas, vous l'écrivez? Vous l'avez appris?
Oui, oui. J'ai appris à lire et à écrire en russe avant d'apprendre à lire et à écrire en français. Ouais.
Et vous aimeriez le faire? Ou vous pensez que vous ne pourriez pas parce que justement il y a tous ces jeux sur le décalage des deux langues?
Mon idéal, ça serait d'avoir un merveilleux traducteur ou une merveilleuse traductrice et moi à ses côtés qui puisse être parfaitement tyrannique et vraiment retravailler la matière mais avec quelqu'un.
Alors je crois qu'Umberto Eco disait que la traduction était la langue de l'Europe. Vous, vous dites que c'est l'accent, votre langue
maternelle.
Maternelle.
Ah oui.
Vous pouvez expliquer? Votre héroïne encore, c'est pas vous.
C'est tout le livre qui répond à la phrase « L'accent est ma langue maternelle ». Je crois que c'est la phrase qui, si je devais en garder une pour désigner ce livre-là, ça serait probablement celle-là.
Parce que ça se passe à un moment où vous réalisez que votre personnage réalise que sa mère a un accent.
Oui.
Et ça veut dire, parce qu'en fait, elle a appris le français, mais moins bien, finalement.
Je ne sais pas.
Il lui reste en tout cas une trace d'accent russe.
Ça, c'est quelque chose que j'ai nourri de ma propre expérience, parce que mes parents avaient un accent à un moment où moi, je n'en avais plus. Et cette question de l'accent, elle pose la question de la trahison, c'est-à-dire comment parler la langue étrangère qui n'est plus étrangère sans accent, sans trahir les siens, ceux qui nous ont appris à lire, à écrire et à parler. Et donc, cet enjeu-là, c'est-à-dire même cette gradation, le compliment qu'on fait très spontanément, les gens complimentent pour un français dit impeccable, c'est un faux compliment en fait.
Oui, c'est comme si je vous disais, oui, vous parlez français, si je pouvais parler russe comme vous parlez français sans...
Puis c'est une façon de se auto-complimenter, se dire « tu parles aussi bien que moi » qui est en fait une forme d'idéal, mais peut-être que l'idéal n'est pas au bon endroit.
Mais ça, c'est quelque chose qui est très, très français, pour le coup. L'espèce d'aspiration à ce que tout le monde parle une langue très pure, très parisienne, d'ailleurs. Parce que c'est le français de Paris, c'est pas le français de province, avec un accent. Un autre accent, pour le coup.
Oui, je ne sais pas. Je crois que j'ai déjà rencontré ça en Russie aussi.
Ah, il y a la même chose. Allez, on va vous faire une petite surprise. On va vous faire écouter une chanson dont on parle, un extrait d'une chanson dont on parle dans votre livre.
Опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. московский ход, мне осенний свет. Я люблю под окнами мечтать.
Voilà, on a coupé un peu brutalement. Je crois que ça s'appelle Les fenêtres de Moscou. Je vais vous laisser me dire le nom de l'auteur.
Léonid Outiosov.
Et c'est le chanteur aussi ?
C'est le chanteur, oui.
Ce que je vous disais pendant qu'on l'écoutait, on a envie de pleurer rien qu'à la voix. Et je voulais savoir si c'était une histoire terrible qu'il racontait ou pas.
C'est une histoire d'amour, d'amour avec un lieu.
Vous avez, enfin, votre personnage a une histoire d'amour avec un lieu, on va pas trop le dire. Je voudrais quand même qu'on parle d'un personnage qui est dans votre livre, qui le traverse, qui s'appelle... Jalal, je ne sais pas si on a le temps de tout raconter de l'histoire, mais en tout cas, quand les gens liront votre livre et découvriront l'histoire terrible de ce garçon qui s'appelle Jalal, et vous, à ce moment-là, le personnage s'agace un peu sur la dette qu'aurait toujours celui qui apprend le français, qui vient en France, qui est accueilli en France, qui aurait toujours quelque chose à prouver. Ça, j'ai envie de dire, c'est pour vous presque une position politique.
C'est
une révolte plus personnelle par rapport au cas de ce garçon.
C'est-à-dire que moi, je raconte l'histoire, et évidemment que libre à chacun d'avoir l'interprétation et la lecture qu'il veut de ça. Moi, je juxtapose, je coordonne cet élan-là, mais effectivement, Jalal a mis son procès, le procès de son qui a eu lieu suite à son décès, a lieu il y a 2 ans, et en fait, il s'est noyé au cours d'une séance de bizutage à l'école de Saint-Cyr. Je crois que le procès n'a pas donné satisfaction aux familles, et l'enquête qui a été menée n'a pas non plus donné satisfaction à la partie civile. Et effectivement, cette histoire de dette, de devoir rendre quelque chose, m'avait beaucoup marquée pendant la couverture médiatique de son procès.
Vous avez toujours pu vous appeler Paulina, ou vous avez eu quand même... On ne va pas aller plus loin dans l'autobiographie, savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mmh. Mais ça, vous avez eu ce problème-là de nom, on a voulu vous imposer le nom de Pauline.
Quand je suis arrivée en France, je m'appelais Paulina. Et au moment où j'ai obtenu la nationalité française, tout comme pour la narratrice, mon prénom a été francisé en Pauline.
Sans vous demander votre avis.
Alors, il y a des cases qui ont été cochées. Je crois qu'il faut, quand même, pour que ce soit fait, il faut cocher une case dans le document.
Je vais pas lire, c'est un peu long, mais il y a quelque chose de la poésie de l'enfant dans votre livre. Je voudrais juste lire quelques lignes. À la fin de l'été, mon père vient nous ramener à Moscou. J'ai vu l'horizon, je dis. Où ça ? Demande mon père. Je ne savais pas qu'il y en avait ailleurs que sur le pommier. Parce qu'en fait, la petite fille découvre l'horizon sur le pommier.
Oui.
C'est très beau, ça, sur le rapport à la langue. L'horizon, c'est d'abord sur le pommier, et après, on découvre que l'horizon, il est partout.
Oui, oui.
Je trouve ça magnifique, moi, je sais pas. Vous avez...
Merci.
Vous avez hâte de retourner en Russie, l'une et l'autre ?
Comment dire ? Théoriquement, oui. Dans la pratique, je ne sais pas.
Oui, mais j'ai hâte aussi. J'aurais dû y aller cet été, puis je n'y suis pas allée. Mais bon, ça va être compliqué d'y aller. Là, on peut y aller autrement qu'en avion, mais puis je ne sais pas si j'ai envie aussi maintenant.
Je vais vous poser la question
autrement.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Mes amis.
Paulina ?
Bah oui, les gens que j'aime, des amis, la famille, et puis
parler
des lieux
russe,
aussi.
Ça vous manque ?
Parler russe, je parle russe tous les jours.
Ah bon ?
Oui.
Je parle russe avec notamment une de mes meilleures amies à qui j'ai dédié mon livre. On s'appelle presque toutes les semaines, mais oui, c'est pas comme
en fait, vous parlez russe tous les jours. Ma question était idiote. Je termine mal cette année. Je sais pas si on va me garder. Merci beaucoup. Je rappelle, Paulina Panasenko, votre livre s'appelle Tenir sa langue, et c'est aux éditions d'Olivier. J'espère que j'ai pas écorché votre nom.
Non.
Parfait. Laura, sur ça, je suis en progression. Vous, Laura Poggioli, ces trois sœurs, c'est paru aux éditions L'Iconoclaste. C'est pas vraiment deux livres qui se ressemblent, mais c'est deux livres qui, à mon avis, font un dialogue très intéressant. Je vous remercie d'être venues toutes les deux. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
Bonne soirée même. Voilà, c'était La Relève. C'était présenté par Christophe. À la réalisation, c'était Tsolag. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez à 19h la matinale. Et puis toutes les émissions de cette année, des années précédentes, vous les retrouvez sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Voilà. Bonne soirée, à bientôt.